Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les 50 habitudes de ceux qui réussissent » de Christian H. Godefroy est un ouvrage de développement personnel centré sur le rôle structurant des comportements répétés. Publié par Book Ellis et également proposé sous forme audio, il présente un ensemble de 50 habitudes que l'Académie personnelle du succès aurait dégagées après examen de milliers de parcours. Le livre ne traite donc pas la réussite comme un événement isolé, ni comme le produit exclusif du talent ou de la volonté. Il la rapporte à des pratiques régulières, susceptibles de devenir suffisamment stables pour orienter les décisions et les actions au quotidien. Son objectif est de fournir un cadre de repérage, identifier les habitudes déjà présentes, constater celles qui freinent les résultats recherchés et envisager le remplacement progressif de ces dernières. Le titre insiste sur une idée d'automatisation. Lorsque des comportements utiles deviennent habituels, ils demandent moins de délibération consciente. L'ouvrage se situe ainsi dans la tradition pratique des guides qui cherchent à transformer des principes généraux de progression personnelle en routines observables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la réussite est présentée comme le produit cumulatif des comportements répétés. Le point de départ du livre est simple, les habitudes façonnent une grande partie de la vie. Cette affirmation déplace le regard porté sur la réussite. Au lieu de se concentrer uniquement sur les ambitions, les décisions exceptionnelles ou les occasions favorables, Christian H. Godefroy invite à considérer ce qu'il répète. Une action isolée peut avoir peu de portée, mais une conduite régulière modifie progressivement la manière de travailler, de choisir et de répondre aux difficultés. Le livre propose donc une lecture cumulative des résultats. Les effets visibles seraient souvent précédés par des routines moins visibles. Cette perspective est utile parce qu'elle rend l'analyse plus concrète. Une personne ne peut pas contrôler tous les événements, mais elle peut examiner certains automatismes de son quotidien et leur compatibilité avec ses objectifs. Le cadre reste celui du développement personnel et ne prétend pas expliquer à lui seul toutes les formes de réussite. Les contextes sociaux, les ressources disponibles et les aléas gardent leur importance. Toutefois, l'ouvrage insiste sur une zone de responsabilité pratique, la qualité des comportements entretenus jour après jour. Son intérêt repose sur ce passage des intentions abstraites vers l'observation des pratiques régulières. Deuxièmement, le remplacement des mauvaises habitudes compte davantage que la seule volonté de les supprimer. Le livre met en avant une double opération, se défaire de mauvaises habitudes et acquérir de bonnes habitudes. Cette formulation est importante, car elle ne réduit pas le changement à une interdiction. Une habitude occupe souvent une fonction dans une journée, une organisation personnelle ou une réaction face à une contrainte. Vouloir simplement la supprimer peut laisser un vide et ramener au comportement initial. Le principe de remplacement suggère au contraire de repérer un automatisme peu utile, puis de lui substituer une conduite plus cohérente avec le résultat recherché. Dans cette logique, la volonté sert surtout à initier et protéger une nouvelle pratique jusqu'à ce que la répétition la rende plus accessible. Le livre se distingue ainsi des discours qui font de la discipline un effort permanent. Son horizon est une réduction graduelle de la dépendance aux décisions héroïques. Cela ne signifie pas que toute difficulté disparaît une fois une routine installée. Il faut encore vérifier ses effets, ajuster son organisation et reconnaître les situations qui fragilisent la continuité. Mais la thèse centrale demeure pragmatique, une amélioration durable passe moins par une résolution ponctuelle que par la création de réponses habituelles plus utiles que celles auxquelles elles se substituent. Troisièmement, la liste de 50 habitudes sert de grille de diagnostic plutôt que de modèle uniforme. La promesse de 50 habitudes donne au livre une forme de répertoire. Selon la présentation éditoriale, certaines de ces pratiques sont probablement déjà acquises par le lecteur, tandis que d'autres peuvent manquer. Cette précision évite en partie une lecture binaire, opposant les personnes qui réussissent à celles qui échouent. Le dispositif peut plutôt être compris comme une grille de diagnostic personnel. Chaque habitude proposée appelle une question : est-elle présente de manière régulière, absente, intermittente ou contredite par une routine concurrente ? La valeur du recueil ne dépend donc pas seulement du nombre annoncé. Elle tient à la possibilité de découper un objectif global en éléments comportementaux plus faciles à observer. Cette approche a toutefois une limite propre aux listes de développement personnel. Une habitude ne produit pas les mêmes effets dans tous les métiers, toutes les périodes de vie ou toutes les contraintes matérielles. Le lecteur gagne à éviter une application mécanique et à hiérarchiser les changements selon son contexte. Le livre paraît surtout utile lorsqu'il est traité comme un inventaire de pistes pratiques, non comme une formule universelle. La sélection d'une priorité suivie d'une observation réelle de ses conséquences est plus cohérente avec son principe que la tentative de tout modifier simultanément. Quatrièmement, automatiser les pratiques utiles vise à économiser l'attention et stabiliser les décisions. Le sous-titre place l'automatisation au centre de la démarche. Dans ce contexte, il ne renvoie pas à une technique ou à un outil particulier, mais à la transformation progressive d'une action choisie en comportement plus spontané. Cette idée répond à une difficulté courante, l'attention et la capacité de décision sont limitées. Si chaque action utile exige une négociation intérieure complète, la continuité devient fragile, notamment lorsque la fatigue, les urgences ou les distractions augmentent. Une habitude stable réduit une partie de ce coût mental. Elle crée un enchaînement plus prévisible entre une situation et une réponse. Le livre associe ainsi la réussite moins à des poussées occasionnelles de motivation qu'à une organisation qui rend les conduites utiles plus probables. Il faut néanmoins distinguer automatisation et rigidité. Une routine peut faciliter l'action, mais elle doit rester révisable lorsque les objectifs ou les conditions changent. Le bénéfice réel réside dans la libération de ressources pour les problèmes qui demandent un jugement nouveau, non dans la répétition aveugle. Cette dimension donne au livre une portée organisationnelle. Il invite à concevoir son quotidien de manière à soutenir les actions souhaitées avant même que survienne le moment de choisir. En dernier lieu, le livre privilégie une application graduelle fondée sur l'observation de ses propres routines. Même si le titre rassemble 50 habitudes, sa logique peut difficilement être appliquée par accumulation immédiate. Chercher à modifier trop de comportements en même temps risque de brouiller les priorités et de rendre impossible l'évaluation de ce qui fonctionne. La démarche suggérée par le sujet du livre est plus solide lorsqu'elle devient graduelle observer une routine. Préciser le changement envisagé, le répéter dans une situation identifiable, puis examiner sa stabilité. Cette orientation transforme la lecture en travail de suivi personnel. Le lecteur ne se contente pas de reconnaître des qualités désirables. Il cherche les moments précis où ces automatismes actuels favorisent ou empêchent l'action. Le rapport entre connaissance et pratique est ici déterminant. Une liste peut informer, mais elle ne modifie pas à elle seule les conduites. Son apport dépend de la traduction des idées en gestes répétés et adaptés à un objectif concret. Cette exigence explique aussi la tonalité instrumentale de l'ouvrage. Il ne propose pas seulement une réflexion sur ce que signifie réussir. Il présente les habitudes comme des leviers susceptibles de structurer l'exécution. Sa limite est corrélative, sans auto-observation, sans choix réaliste et sans ajustement. Le catalogue peut rester une source de bonnes intentions plutôt qu'un outil de changement durable. En conclusion, les 50 habitudes de ceux qui réussissent conviendra surtout aux lecteurs qui recherchent un cadre direct pour examiner leur routine personnelle et professionnelle. Il peut intéresser les personnes qui se reconnaissent dans un écart entre leurs intentions et leurs actions régulières, ainsi que celles qui préfèrent une méthode fondée sur des comportements observables à des considérations très théoriques sur la réussite. Le bénéfice pratique attendu ne réside pas dans une promesse de résultat garanti. Il consiste plutôt à apprendre à décomposer un objectif large en habitudes à conserver, à corriger ou à installer progressivement. Cette perspective peut aider à mieux distinguer une résolution ponctuelle d'un système quotidien réellement soutenable. Sur le plan intellectuel, le livre rappelle que les résultats sont souvent liés à la répétition, à la préparation des choix et à la gestion de l'attention. Sa singularité parmi les guides de développement personnel tient à son format de répertoire de 50 habitudes et à son insistance sur leur automatisation. Là où de nombreux ouvrages privilégient la motivation, la pensée positive ou les grandes stratégies de transformation, celui-ci met l'accent sur le passage de la volonté à la routine. Les informations publiques disponibles décrivent davantage ce principe général que le détail des 50 éléments. Le lecteur doit donc aborder le livre comme une invitation à faire son propre inventaire, non comme un protocole universel. Sa valeur dépendra de la capacité à sélectionner quelques pratiques pertinentes, à les tester dans un contexte réel et à les ajuster avec continuité. Si vous souhaitez soutenir Christian H. Godefroy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!